Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de Radio G, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. Et ben je vais commencer avec ces quelques mots. On est en Ligue 1 et oui messieurs dames, la semaine dernière on vous parlait de ce match évidemment très important à Raymond Kopa contre Dunkerque et aujourd'hui oui le SCO est de retour en Ligue 1. On en reviendra longtemps dans cette émission mais avant ça évidemment je vais présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui autour du plateau. Il y a quand même beaucoup de monde, l'équipe est plus qu'au complet. Je vais commencer par ma gauche avec Faustin. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Et bah une fois de plus cette année, je me retrouve en béquille au studio.
Aïe aïe aïe.
Après une sombre histoire, après une bonne soirée mine de rien.
Peut-être qu'on revient sur l'anecdote après.
Avec plaisir.
Je vais présenter tout le monde parce qu'il y a du beau monde, mais oui effectivement ta troisième blessure de la saison.
Ouais.
On va commencer à t'appeler Gourcuff, Renato Sanchez, des choses comme ça. Il y a également Clément qui est avec nous. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut à tous. Moi ça va très bien. Bon, je vais pas parler du match de ce week-end auquel j'ai participé, mais plutôt à celui que j'ai vu.
Ça sent la défaite.
Oui, plus que la défaite même. On a perdu 7-1. Bon, après on n'avait pas de gardien, donc.
Mais
et plus rien à jouer.
J'en parlais la semaine dernière. Montreuil. L'équipe
oui,
une est montée.
Oui,
quand
j'étais
même,
au match et oui. Facilement, ils se sont imposés 6-1. Bon, il y avait rien à dire et voilà.
Mais il y avait une belle ferveur ou pas?
Ah oui, il y avait beaucoup de monde. Je pense que à peu près 300 personnes étaient présentes. Ouais, c'était assez cool comme ambiance.
Ça fait plaisir de voir ton équipe première en R2.
Ouais, c'est ça.
Et peut-être qu'un jour tu les rejoindras.
peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, oui, ça pourrait être le cas.
Florian est également avec nous, de retour après sa première mission de la semaine dernière. Salut Florian, comment ça va?
Ça va très bien messieurs, j'espère que vous avez passé forcément un bon week-end avec cette victoire du SCO, cette montée en Ligue 1. Donc
Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on va en parler ce soir.
Exactement. Mathéo est également avec nous. Salut Mathéo, comment ça
va? Salut Alex, salut à tous. Bah ça va très bien, mea culpa sur le SCO, j'y ai pas cru et finalement...
Mais en soi, personne n'y croyait autour de la table.
Hein. Exactement.
La semaine dernière, il y avait beaucoup plus d'optimisme.
C'est ça, il a fallu l'aide de Saint-Etienne. Merci aux Stéphanois.
Merci Saint-Etienne.
Plus d'orange, je dirais même.
Oui, presque
aussi.
Oui.
Ouais.
T'étais à l'Antoine il y a quelques minutes ou pas?
De quoi?
Pour Topette.
Pour Topette, oui, j'étais, ouais. J'étais à l'antenne tout à l'heure, voilà.
Donc t'es de retour.
Voilà, exactement.
Les auditeurs te connaissent.
Une heure d'écart.
Cédric est également avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Hein.
La forme.
Ouais. Non.
Content de cette montée.
Ah, content, mais.
Mais déçu pour Saint-Etienne, non?
Ouais, mais en soi, Saint-Etienne, ils ont moyen d'aller chercher.
Des barrages.
Et bah, le barrage, normalement, après avoir. Ce qui sera dur, ce sera le match aller-retour. Mais bon, je leur fais confiance. Normalement.
Ouais.
Ils sont quand même bien classés pour ça. Mais bon, il y a déjà un premier match à gagner en Ligue 2 pour aller jouer ce dernier match de barrage. Donc, on verra bien.
Contre Metz. Le programme de l'émission, vous l'avez donc deviné, on vous parlera longuement du SCO sur évidemment cette soirée fabuleuse. Faustin nous racontera sa belle anecdote sur cette soirée.
La suite va vous étonner.
Et ouais. Et on parlera un petit peu de la saison. On reviendra sur également les hommes forts et qui ont permis cette montée en Ligue 1. Faustin, tu nous feras un point sur le basket avec Cholet qui ce soir joue un match très très important à 20h30 contre Paris pour une place littéralement en demi-finale. On parlera également un peu de Scandball qui a joué son dernier match de la saison. Après la pause musicale, Cédric et moi, on va présenter un petit peu ce qui va se passer dans une semaine tout pile avec le passage de la flamme olympique dans le Maine-et-Loire. Et puis au niveau international, beaucoup d'actu foot sur la dernière journée de Ligue 1. Voilà. Et évidemment, on reviendra sur la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Tennis, il y aura un petit peu d'actualité avec la saison sur terre battue qui va prendre son apogée, on va dire, avec très bientôt Roland Garros. Faustin, tu nous feras un point NBA, évidemment, le cyclisme, mais également les sports de combat, hein, MMA, boxe ou encore même judo, puisque c'est en ce moment les championnats du monde. On va commencer donc sans plus tarder par le match du SCO. Et oui, cette montée officialisée, on rappelle qu'une victoire donc suffisait à Angers pour monter en Ligue 1, mais voilà, il fallait en tout cas faire un soit égal, soit un meilleur résultat que Saint-Etienne, ça a été le cas. Il y a eu un match nul donc 0-0 contre Dunkerque, un match assez ennuyeux, mais dans le même temps Saint-Etienne a perdu 2-1 contre Quevilly-Rouen qui n'avait rien à jouer et qui était déjà relégué en N1. Donc voilà, le SCO est officiellement donc vice-champion de Ligue 2 et donc remonte en Ligue 1 un an après l'avoir quitté. Voilà, après évidemment on a vu toutes ces scènes de liesse avec l'envahissement de terrain à Raymond Coppa et puis les célébrations en ville, place du ralliement avec une soirée qui a dû se terminer très tôt le matin pour certains joueurs. Bon Faustin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on rappelle qu'on avait deux envoyés spéciaux entre guillemets avec Clément et Faustin. Faustin, donc t'étais au moment de l'envahissement du terrain, prêt à aller sur Raymond Coppa,
prêt à bondir sur la pelouse.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous.
Et au moment de passer le panneau publicitaire, les LED qui entourent le terrain, le panneau tombe et me tombe sur la jambe. Je reste bloqué. C'est la fin. Je crie à l'aide pour qu'on vienne me secourir et heureusement quelqu'un me voit et commence à soulever les panneaux. J'arrive à m'en sortir, mais je peux plus marcher, quoi.
Donc entorse du genou, le verdict est tombé. Heureusement, c'est déjà la fin de la saison, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vrai que il y avait une vraie. Les gens, en tout cas, avaient envie de monter, enfin d'aller sur la pelouse très très tôt. Et les speakers, Clément, qui vous disait de pas sortir parce que voilà, il y avait ce potentiel tapis vert qui pouvait tomber. Oui,
Au Havre, c'était arrivé l'année dernière.
C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, ça les avait empêchés. Non, c'était l'année d'avant, peut-être.
Non, ça les avait pas empêchés.
Mais oui, ils avaient pris tapis vert, une sanction par rapport à ça.
Surtout, ils ont pris tapis vert parce qu'ils sont rentrés. Il restait genre 2 minutes de.
Non, j'ai revu la vidéo. Il restait 30 secondes.
Oui, il restait 30 secondes, ça.
Mais bon, ils ont quand même envahi le terrain.
Ouais, voilà. Le temps était pas effectif. Voilà, c'est pas ça, voilà. C'est ça. Tandis que là, au moins.
Oui, là-bas.
Ça a bien tenu.
On entend juste un coup de sifflet.
Oui, alors ça.
Et du coup, les gars, l'ambiance au stade, c'était quelque chose.
C'était génial. Il y avait, moi, j'ai la chance, j'étais vraiment en plein milieu du COP.
Ouais.
J'avais réussi à me faufiler et ouais, il y avait vraiment une bête d'ambiance, il y avait plein de craquages, il y a eu un beau tifo au début.
Ouais.
Et des fois, il y avait tout le stade qui reprenait certains chants. C'était vraiment, je pense, la meilleure ambiance de la saison et à laquelle j'ai pu assister.
Oui, puis c'était surtout la première fois que le nouveau stade était plein, je pense.
Ouais,
il était à guichet fermé. Ouais. Et c'est vraiment impressionnant à voir. Enfin, j'ai pas souvent vu le stade du SCO dans une telle ferveur et puis après de rentrer sur le terrain comme ça en courant, c'était génial.
Ouais, pas mal.
Forcément, bon, Faustin, c'est un peu un souvenir amer. Je vais me tourner vers
ta note sur 5 du moment brin d'herbe.
Ouais, bah
aïe, aïe, aïe.
Ils sont fanés en plus mes brins d'herbe.
Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Je vais me tourner vers ceux qui n'étaient peut-être pas forcément au stade. Je vais commencer par Cédric. Quel sentiment t'as après cette montée?
Bah, t'as quand même un dernier goût quand même sur cette montée.
De pas avoir gagné peut-être.
Ouais, je pense que quand tu vois comment ça a été serré tout au long de la saison, je pense qu'ils peuvent avoir quand même ils auraient pu décrocher au moins ce titre s'il n'y avait pas eu certains couacs, s'il n'y avait pas eu certaines périodes où par faiblesse, par manque de motivation, je pense aussi. Enfin, dans la saison, t'as des hauts et des bas. Ce serait vraiment le truc que je vais retenir, tu vois, du championnat cette année par rapport à ça. Parce qu'en soit la soirée, oui, comme tu dis, le match, c'est un peu fait chier, quoi.
Ouais.
Genre... Après, on doit quand même. Pour moi, il y a déjà deux pénaltys qui sont pas sifflés et je pense que dans un autre cas, enfin, si le SCO n'avait pas entendu les supporters crier pour les deux buts de Quevilly. Je pense que ça, bah franchement, à la fin, ils jouaient tranquille. Oui, ça jouait tranquille et je pense que il serait allé décrocher une victoire. Après, c'est que mon avis.
Mathéo, sur la saison, c'est quand même un bel accomplissement de voir le SCO monter en Ligue 1.
Ouais, c'est magnifique. Franchement, je pense qu'on est tous très contents, surtout au vu de certaines performances affichées par le SCO ces derniers temps. Je trouve la montée moins marquante que 2015. Ça, tout à fait logique.
C'est un peu
logique.
D'accord. J'y étais. C'était vraiment peut-être que je suis voilà.
Chanceux. Hein. Chanceux, moi j'étais devant mon poste. Et puis là, ce qui était intéressant, moi j'étais en ville. Bon, j'étais au bar, voilà.
Il y a pas de souci.
Et ce qui était vraiment hyper intéressant, c'est au coup de sifflet final, on a senti vraiment toute la ville résonner de joie. Donc ça, c'était beau. Maintenant, pour l'année prochaine, on va voir ce que ça va faire. Honnêtement, il va falloir un mercato vraiment très solide. Il y a des gens compétents à l'intérieur du club, mais il va falloir recruter des joueurs parce que bon là offensivement c'était compliqué. Dunkerque, c'est une des meilleures équipes de Ligue 2 aussi en 2024, donc c'est à prendre en compte. Ils étaient bons derniers et quasi relégués en 2024, début 2024, donc voilà. Mais
bienvenue.
Il va falloir recruter obligatoirement.
Ce qu'il faut redire, c'est qu'il n'y avait pas de fan zone cette fois-ci aussi.
Ouais.
Comparé à la dernière fois.
Et du coup, voilà, des célébrations. Florian, toi, qu'est-ce que t'en penses sur cette montée du SCO en Ligue 1?
Bah, il y a de quoi travailler. En tout cas, pour la saison prochaine. Il y a des bases solides. Il y a un entraîneur qui a fait du très bon travail. Maintenant, dans quel état il va pouvoir être aussi pour la suite? Je pense qu'il a été sur les nerfs jusqu'à la fin de la saison et c'est ce qu'il a gardé. Et après, ce qu'il a vécu, forcément, c'est pas facile aussi dans la vie d'un homme. Il le dit lui-même à la fin en interview après match sur certains médias. Et l'équipe était fatiguée, donc je pense qu'il était très bien très content de pouvoir éviter les barrages. Maintenant la suite, c'est comme le dit Mathéo, c'est de savoir quel effectif tu vas avoir et quels seront les hommes forts de la saison prochaine parce que c'est important de la travailler dès maintenant. Et je rejoins aussi Mathéo sur une chose, c'est la ferveur. Il y a une ferveur qui est montée au fur et à mesure de la saison. Ils ont de quoi travailler aussi là-dessus. Il y a une ville qui demande que ça, d'avoir un club en Ligue 1 et d'avoir des joueurs à supporter et des choses à faire et à créer, une ferveur aussi qui est présente. Donc à eux de pas la gâcher.
Très bien. Je vais faire un petit résumé de la saison. Je vais donc en reprenant toute la chronologie. Apparemment, alors ça évidemment n'est pas dans le secret du vestiaire, mais selon les déclarations qui sont sorties, on entend que le groupe s'est formé dès la préparation, qu'il y a eu une vraie osmose rapidement. Mais la saison en Ligue 2 commence plutôt mal avec donc 2 points sur les 3 premiers matchs et cette première victoire qui intervient justement à Dunkerque 1-0 à la fin août. Et puis derrière, il y a une série de 5 victoires consécutives entre fin septembre et fin octobre. Il y a une nouvelle invincibilité entre début novembre jusqu'à la fin de 2023, ce qui mène le SCO à être donc champion, alors champion d'automne, champion d'hiver, je sais jamais. D'automne. Ouais. Très bien, donc champion d'automne. À la trêve hivernale, il y a pas mal de choses qui vont potentiellement expliquer ce qui s'est passé sur les deux premiers mois de l'année 2024, avec notamment, donc on disait, le deuil hein, pour Alexandre Dujeu qui va perdre sa femme et qui va quand même, donc on le disait, retrouver la force de s'engager dans le groupe et de s'engager dans le travail pour aller à ses objectifs. Il y a également le départ de Jean-Matteo Baoya, hein, faut s'en souvenir, qui était l'un des meilleurs super subs d'Europe. Et puis finalement, voilà, il y a notamment ce match décisif à Concarneau où les Angevins donc sont menés 2-0, s'imposent finalement 4-2, alors que Saint-Étienne donc à ce moment-là pouvait devancer les Angevins. Finalement, donc dans les trois dernières journées, c'est Saint-Étienne qui a l'avantage. Ils ont 2 points d'avance sur Angers. Et finalement, ils ne font que 2 sur 9, tandis que le SCO empoche 7 points sur les 9 possibles. Et c'est donc les Angevins qui vont aller en Ligue 1. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, messieurs, sur cette saison. Il y a des fois où, bah, même ici en émission, on n'y a pas cru.
Bah oui, c'est clair que là, dans la dynamique, surtout de la deuxième partie de saison, ça faisait vachement peur parce que on avait vécu une première partie qui était juste incroyable, surtout vu ce qu'on venait de vivre en Ligue 1 et retomber un peu dans nos travers, ça nous faisait très très peur et du coup on a préféré être sur la défensive plutôt que d'être joyeux et de se dire que tout va le faire, que tout va bien aller, mais finalement on est très bien sorti.
Ouais. Oui, parce que même si on avait une mauvaise dynamique, on est quand même toujours resté dans le top 3 depuis un certain bout de temps, et je pense que c'est aussi ce qu'a fait la force du SCO de pas non plus descendre en dessous de la troisième place qui était quand même synonyme de barrage, donc c'était quand même pas perdu. Et aussi il y a eu cette série de victoires à domicile et qui a, je pense que les matchs à domicile cette saison ont énormément compté. Et les joueurs avaient l'air satisfaits de l'ambiance et ils étaient poussés par ce stade qui a quand même répondu présent.
Mathéo, est-ce qu'il y a eu peut-être un sentiment aussi de chasseur chassé où dès que ça a basculé en faveur de Saint-Etienne, Angers du coup n'avait plus rien à perdre et s'est lâché?
Bah, c'est un peu ça, la dynamique stéphanoise elle nous effrayait, hein. Je le dis très clairement, il paraissait quasiment intouchable, on sentait que vraiment du côté de Saint-Etienne, il y avait plus qu'une envie d'un retour en Ligue 1, il y avait une envie de retourner dans cette sphère qui est la leur. Maintenant ils n'ont pas réussi à le faire, c'est à notre avantage, c'est très très bien. Maintenant aussi, ce qui est un petit peu, ce qui est démonstratif de la galère un petit peu qu'a connu le SCO, c'est le parallèle à faire avec les autres équipes. On a vu Laval se casser la gueule, Grenoble se cassait la gueule aussi, donc forcément inconsciemment on pouvait faire ce parallèle avec Angers. Ça a pas été le cas, c'est très très bien, c'est aussi dû au travail des jeunes. Je pense à Kalumba, je pense à Raoul Isoa qu'on a apporté beaucoup de choses sur cette fin de saison et sur
les Stéphane Lepaule aussi, oui.
Et Stéphane Lepaule, ouais, bien sûr, qui est pas formé au club, c'est pour ça que je pense pas directement.
Ah oui, non, mais
lui,
oui,
mais c'est des joueurs sur
la dynamique qui sont arrivés, qui ont apporté quelque chose. Florian, pareil, il y a des fois où on n'y a pas cru, on n'y a plus cru peut-être. Et finalement, on a réussi à inverser la tendance.
Ouais, mais c'est aussi le niveau de la Ligue 2. Enfin, la Ligue 2, c'est une division qui est complètement, c'est la guerre, en fait, j'ai l'impression. Il y a tellement d'équipes qui ont le niveau Ligue 1, qui ont le niveau Ligue 1, qui espèrent, qui ont des aspérités à retrouver la Ligue 1. Et quand on voit que, pour l'instant, sur le carreau, il y a quand même Caen qui est encore sur le carreau. Saint-Etienne, ils ont encore une chance de monter, mais ils peuvent l'être potentiellement aussi, rester sur le carreau. Bordeaux, pour d'autres raisons. Amiens est l'une des meilleures défenses de Ligue 2, mais bon, après une attaque aussi en carton. Mais tu te retrouves avec des équipes qui veulent monter. Et Laval était une surprise. Grenoble aussi a connu déjà la Ligue 1. Laval l'a connu, mais il y a très très longtemps. Donc la Ligue 2, c'est la guerre. Donc forcément, à un moment donné, ta saison elle est faite de haut et de bas. Mais si t'arrives à garder un cadre et un objectif comme l'a fait le SCO cette année. Bah la résultante, c'est le fait de monter en Ligue 1 directement et de pas passer par les barrages.
C'est vrai que je me tourne vers toi. C'est vrai que on va dire que t'étais pas le plus optimiste tout au long de la saison. Et est-ce que on peut dire que le SCO t'a surpris sur cette saison quand même agréablement?
Oui, parce que on pensait pas non plus qu'ils allaient se remettre tout de suite de cette saison dégueulasse de la Ligue 1.
Ça, ouais, bien sûr.
Normalement, ça te laisse un gros coup moral. Enfin, je les voyais pas jouer le haut du classement. Ça, je l'avais dit d'entrée de jeu. Effectivement, moi, je les voyais plus grand max dixième dans le pire des cas, quoi. Mais non, ouais, ils ont su trouver ce petit côté, je sais pas, un peu fou, enfin, de se dire, vas-y, on apprend de ce qui s'est passé l'année dernière et on remonte. Et c'est vrai que le championnat de Ligue 2 est techniquement plus difficile à se maintenir en termes de classement. Il y a tellement d'envie et d'enjeux derrière.
Ouais.
Que, ouais, bah, au final, c'est cool pour eux, mais attention, quoi. Enfin, monter, c'est plus facile
que de se maintenir.
Que se maintenir et surtout de pas redescendre et derrière rester dans le vent moutre de la Ligue 2, quoi.
Ouais. On va revenir un peu sur les joueurs un peu qu'ont composé donc cette équipe qui est remontée en Ligue 1. On fera après un tour de table sur quels sont un peu vos joueurs coup de cœur. Je vais un peu détailler d'abord parce que je trouve que l'effectif se décompose, on va dire entre guillemets, entre quatre groupes. Il y a un premier groupe où je vais mettre deux joueurs seulement dedans, mais dont la trajectoire que je trouve très intéressante, avec Diony et El Melali. Diony notamment, il avait été prêté toute la saison de 2021-2022 à Belgrade. C'était quelqu'un qui a mis quand même 6 buts sur ses deux saisons précédentes à Angers, et aujourd'hui il en a mis 15 en une seule saison, et c'est, voilà, ça a été un joueur qui a notamment figuré dans la liste, enfin dans le 11 type de Ligue 2. Et puis El Melali, pareil, beaucoup de problèmes aussi extrasportifs, une condamnation notamment pour exhibitionnisme en 2020, 4 buts seulement également depuis 2018, et il avait été aussi prêté en 2021-2022 du côté de Pau. Et cette année, voilà, 13 fois décisif, avec donc but et passe décisive. Et puis voilà, on sentait déjà dès l'année dernière que le joueur, notamment en piston, pouvait être intéressant en Ligue 1. Après, il y a ce groupe aussi avec des joueurs qui ont connu la saison catastrophe dont on a parlé donc l'an passé, et qui ont quand même réussi à retrouver du niveau de jeu. Je pense à Yann Valéry, Yaya Fofana, Abdoulaye Bamba, Kapel évidemment, Abdelli ou encore Utunji. Voilà, c'est des joueurs qui ont connu une saison galère l'année dernière et qui sont restés au club, qui ne sont pas partis et qui ont réussi à faire une plutôt bonne saison dans l'ensemble. Et puis exceptionnel pour Abdelli. Et puis je peux citer également Nian et Ounou, mais qui ont joué quand même un rôle mineur dans cette saison en Ligue 2. Les recrues qui ont apporté. Joseph Lopi qui venait de Sochaux en Ligue 2, Anin et Lefort qui venaient du PFC aussi en Ligue 2, donc voilà, c'était pas des recrues qui venaient de Ligue 1. Et puis Ferhat qui venait de Turquie, qui pareil a peut-être pas apporté autant, mais il y a eu pas mal de blessures et qui sera sûrement important l'année prochaine. Et puis évidemment, on en a parlé, on a quand même un très bon centre de formation avec les joueurs formés au club. Alors il y a Baoya qui est parti, mais il y avait Raoul Izoa, Kalumba, Ould Khaled qui s'est imposé au moment où Lopi était blessé, Belkdim, Kourkoul sur quelques matchs, ou encore Melvin Zinga qui, on le rappelle, a suppléé Yaya Fofana pendant la CAN. Messieurs, je veux faire donc un petit tour de table. C'est qui un peu vos joueurs coup de cœur? Alors évidemment, essayer d'être un peu original, mais voilà. Faustin, ce serait quoi ton joueur que tu retiens cette saison?
Moi, j'irais sur El Melali, qui m'a pas mal impressionné, mine de rien, qui a été assez impactant dans des matchs importants, qui a mis beaucoup de buts, qui a apporté de la fraîcheur avec un peu de technique en attaque, et moi c'est le joueur qui m'a marqué cette saison.
Clément.
Alors moi j'ai deux joueurs. Premièrement, je veux dire Kapel, parce que pour moi c'est celui qui représente le plus le SCO. Il est là depuis je ne sais combien de temps.
2015.
Capitaine.
Juste après la montée, justement.
Ah bah, capitaine, enfin voilà, il sur le terrain encore contre Dunkerque, il a été omniprésent, je trouve, dans tous les duels à fond. Voilà, il représente la Dallangevine, je trouve. Et le deuxième, c'est Esteban Le Poll, qui sur la deuxième partie de saison m'a surpris et a marqué des buts décisifs qui font que le SCO est resté en haut du classement. Et oui, Esteban Le Poll, c'est un joueur qui m'a bien plu.
Florian, quel joueur tu retiens de cette belle saison angevine?
Moi, je vais partir sur le gardien, sur Fofana, parce que pour moi, en Ligue 2 notamment, il te faut quand même un très bon gardien. Même si Zinga a tenu un peu la baraque pendant la CAN aussi début janvier, c'est là aussi le SCO a a eu son creux. Alors, attention, je l'ampute pas à Zinga, mais pour moi, avoir un bon gardien pour pouvoir monter en Ligue 1, c'est le plus important. Alors après, on dira la même chose pour se maintenir en Ligue, pour se maintenir, mais pour monter, c'est primordial.
Ouais, Fofana qu'on avait quand même un peu critiqué à certains moments de la saison, parce qu'il est quand même capable de quelques boulettes, mais c'est vrai qu'il est évidemment très intéressant, et puis champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Matteo, tu retiendras qui ?
Moi, je vais me calquer sur Clément un petit peu, je pense qu'il a raison sur pas mal de points. Capel, il est monté, il a dit qu'il avait 53 ans,
oui, c'est ça
excellent, et je trouve ça plutôt révélateur. C'est vrai que c'est un joueur peut-être qu'on enterrait un peu à la fin de saison dernière. Mais c'est notre capitaine, c'est Angers, Pierre Capel.
Exactement.
Et puis Le Paul qui arrive cet hiver, il y avait beaucoup d'attentes, je pense, autour de Esteban Le Paul. Il a su répondre et ça a été vachement intéressant, surtout en sortie de banc avec le départ de Baouya. Et puis surtout, moi, un joueur que j'adore, c'est Kalumba. Je l'ai découvert la saison précédente, le match contre le PSG. Je pense que ça a été le oui, même oui, cas pour tout le monde. Et c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur hyper moderne. Vite, qui
bon dribble, élien, très, bon
très bien, très très bon ailier et surtout latéral. Donc voilà, moi je retiendrai quand même Kalumba pour la saison prochaine. Je mets une pièce sur lui.
Et 3 buts, 3 passés, notamment pour Le Paul, hein, qui arrivait de N1 de Épinal. Cédric, un joueur en particulier ?
Non, parce que j'ai pas trop suivi, mais moi je mettrais un acteur quand même majeur. À l'entraîneur du jeu.
C'est vrai que du jeu.
Du jeu et son staff, enfin voilà.
Exceptionnelle performance.
C'est, enfin, quand tu reprends un club comme ça, tu sais que la mission va pas être évidente. Trouver les ressources, trouver la petite perle au bon moment, trouver le bon collectif au bon moment. La gestion de la CAN, même si les résultats n'ont pas été là, je pense qu'il a quand même fait quelque chose de costaud pour avoir les meilleurs joueurs du moment. Enfin, pour voilà.
Ouais, un gros bravo à Alexandre Dujeu qui a ému pas mal de monde, je pense, lors de ses interventions, notamment après le match, que ce soit sur Bein ou sur Prime Video, et vraiment voilà.
Encore et une... sur l'équipe.
Voilà, exactement, et un grand bravo à lui pour ce qu'il vient d'accomplir. Voilà pour le bilan du SCO. Peut-être que on fera sur les semaines prochaines une projection. Justement, vous parliez déjà de l'année prochaine, comment, quels joueurs vont arriver, quelles ambitions on peut avoir. Donc ça, on verra dans les semaines prochaines, puisque l'émission avance déjà. On est déjà 20h28. On va enchaîner avec le basket, Faustin. Et tu vas nous parler d'une équipe dont la saison n'est pas finie, et oui, et qui d'ailleurs peut encore se prolonger pendant un petit moment.
Bah oui, ils peuvent créer la surprise après déjà l'avoir créé en remportant le match 1 à Paris avec un immense Tijan Salon, ce qui lui a permis de gagner des places dans la mock draft et peut-être atteindre un top 10. Cholet avait l'occasion de finir le boulot à domicile, mais ça s'est pas aussi bien passé qu'au match aller. Paccard Paris a gagné 90-72, une assez lourde défaite. Le match décisif a lieu ce soir à 20h30 à l'Adidas Arena pour que Cholet essaye de créer la surprise dans ses playoffs en sortant le deuxième de Betclic Elite.
Tu nous tiendras informé évidemment de l'évolution du match, mais ça va être très important pour Cholet. Un petit point avant de passer à la pause musicale sur le SCO Handball. À noter que ils ont disputé leur dernier match de la saison en Pro League, défaite 39-26 contre Tremblay qui est actuellement leader du championnat. Et puis à noter que donc le recours devant la Ligue nationale de handball pour un maintien administratif en Pro League est toujours en bonne voie. Le club a notamment reçu récemment le label bronze de gestion du club. Voilà, une récompense qui devrait favoriser donc ce maintien en Pro League. À noter du côté sportif le départ de Swan Lemarié qui était au club depuis 3 ans. On va passer à la pause musicale maintenant. On va s'écouter une musique qui a un peu résonné au stade Raymond Coppa vendredi soir. C'est Freed From Desire et on se retrouve juste après. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people.
people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na.
From Desire, vous avez peut-être, vous en avez peut-être marre d'entendre ces musiques, mais c'est ce soir, c'est une un soir de fête puisque nous sommes en Ligue 1. Je le rappelle, et peut-être que ça portera chance à Cholet. Faustin, le match vient de commencer contre Paris.
Est-ce que ça a commencé?
Sûrement.
Très bien, bah tu tiendras au courant du résultat du match.
2-0 pour Cholet.
Oh putain,
voilà. On a gagné.
C'est pas mal ça, c'est pas mal. On va maintenant parler d'un événement de sport à Angers qui aura lieu donc dans une semaine tout pile, et on essaiera un petit peu avec nos moyens de vous faire un peu vivre l'événement puisque ce sera juste avant l'émission. C'est le fameux passage de la flamme à Angers. Alors avant que Cédric nous présente un peu ceux qui vont porter justement cette flamme, je vais vous dresser un petit peu le parcours qu'elle va faire dans le Maine-et-Loire. Donc je rappelle, donc le 28 mai prochain, la flamme olympique qui est arrivée en France métropolitaine, le 8 mai dernier, elle sera donc de passage dans notre magnifique département du Maine-et-Loire. Après avoir parcouru l'Indre la veille, le cortège enflammé démarrera sa course dans le 49 depuis Baugé en Anjou. La flamme s'arrêtera une première fois dans le château médiéval de Montsoreau, histoire d'aller un petit peu dans le Saumurois. Puis direction le Lion d'Angers avec le parc départemental de Lille-Briand avant de parcourir les vignes du Coteau du Layon en passant notamment par Chaudefaux-sur-Layon. Ensuite, passage dans les Mauges à la Romagne avec la mise en avant de l'enceinte sportive du club de tennis de table local, évidemment, la Romagne. Et la dernière étape avant de retourner à Angers n'est autre que Saint-Florent-le-Vieil sur le bord de la Loire à la frontière avec la Loire Atlantique. Et donc, à partir de 18h10, la flamme olympique fera son entrée dans la capitale de l'Anjou. Elle débutera sa course au stade Miculac au lac de Maine, passera devant le quai, empruntera le pont de Verdun, ralliera la place du ralliement, fera le tour du boulevard Foch et prendra ensuite le boulevard Aéro pour terminer finalement sa course sur la place Rochefoucauld où sera installé le site de célébration de la flamme. Alors justement, en parlant de la flamme, Cédric, dis-nous qui va porter cette flamme à Angers.
Eh ben, ils vont être. C'est un peu étonnant, j'ai envie de dire, mais ils seront que 6. Malgré 6 représentants, en fait, pour porter la flamme sur un parcours quand même qui aurait peut-être mérité un peu plus, mais enfin, ça, c'est un autre débat. J'ai essayé de te les... Ouais, on va le faire par ordre d'âge. Comme ça, on va...
Bah, écoute, très bien.
Donc, la plus jeune, puisque c'est une femme, elle a 14 ans, elle s'appelle Rose Léger. C'est une jeune sapeur-pompier qui est en formation, qui a été sélectionnée pour représenter, voilà. Je pense sa tranche d'âge, représenter la jeunesse et.
Et puis un corps de métier, évidemment.
Un corps de métier, voilà, qui est essentiel. Ensuite, bah, tu t'en parlais, mais pour représenter un peu la Romagne et justement son club de tennis de table. Noah Chupin, qui a 15 ans. Petit palmarès déjà, puisque victoire en équipe de France au championnat de France. Ce qui est pas mal, hein, déjà, à 15 ans. Ensuite, on change complètement. C'est pas du sport, là, qui est mis en avant, mais c'est plus le côté CAP, puisque avec une médaille d'argent au concours départemental du meilleur apprenti, on a Amadou Léga, de 21 ans, voilà, qui va représenter, donc, cette profession, tout ce qui est CAP, tous les gens qui sont en apprentissage. Mmh. Ensuite, alors, est-ce qu'on garde peut-être les plus connus pour la fin?
Peut-être, si tu veux.
Ouais. Donc ensuite, on va faire une transition. Donc c'est Claire Pogu, 38 ans. Donc c'est une psychologue et directrice de l'association des victimes de France 49, qui accompagne notamment les victimes de violences conjugales.
Ok.
Donc on voit, voilà,
une noble cause.
Une noble cause. Puis bon, je pense, voilà, ça a été une cause aussi depuis 2-3 ans qui est beaucoup mise en avant. Je pense que c'est un moyen aussi par le département de.
Bien sûr.
De voilà de soutenir cette cause et puis de ne pas faire oublier que c'est hélas encore un gros souci à notre époque.
Évidemment.
Les violences conjugales. Et on va rentrer du coup, on va dire déjà dans le monde olympique.
Eh oui.
Puisque. Ce sera donc Vanina Paoletti, 26 ans.
Que dire?
Déjà un beau palmarès, hein, s'il en est. Déjà une expérience au JO de Tokyo, une 9e place. Bien sûr, c'est pas une médaille, mais c'est déjà une très belle expérience.
C'est pas rien.
Et une 5e place en double mondiaux en 2023.
Et puis surtout, elle est qualifiée pour les JO de Paris 2024. Ça fait partie des rares Angevines et Angevins qui vont justement jouer ces jeux. Donc, il y en aura d'ailleurs peut-être un peu moins qu'il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, il y avait 5-6 athlètes. Ouais, là, peut-être un peu moins. Donc voilà, Vanina Paoletti qui va donc représenter notamment les couleurs de l'ESAC.
De l'ESAC. Ouais.
Évidemment, donc à Paris.
Et puis on va finir par le doyen. Doyen aussi par, j'ai envie de dire, l'expérience olympique, hein. Ah, puisqu'à 43 ans, Nicolas Touzin, donc.
Évidemment.
Forcément, peut-être plus connu du côté de Saumur, qui est adepte de ce genre de discipline avec le cadre noir, puisque, c'est un champion olympique de concours complet, par équipe à Athènes en 2024, médaille de bronze à Tokyo, double champion d'Europe en individuel. Et voilà, donc il représente la team Anjou aussi.
Très bien.
En 2024, donc c'est bien, c'est des disciplines olympiques qu'on voit hélas que une fois par année d'Olympiade. Donc c'est bien aussi de les mettre en avant via la flamme.
Et à noter également qu'il y aura Marie Rivreau. Qui sera plus dans le département. Là, tu parlais donc de ceux qui vont porter à Angers. Marie Rivreau, qui, on le rappelle, est donc une médaillée aux Jeux Olympiques des Sourds, donc aux Deaflympics, avec notamment donc son mari Théo Moreau, qui, pareil, lui, fait du triathlon et elle, donc du saut à la perche. Et voilà, elle va porter la flamme olympique sur les routes angevines.
C'est peut-être un petit peu ce qui manque, je trouve, à cette liste. Pour la partie en juin, c'est le monde handisport qui n'est pas représenté forcément.
Ouais, donc c'est vrai que...
Il y a Claire Supiot qui le fait aussi.
Ouais, c'est ça.
Mais... Claire Supiot qui va porter la flamme aussi à Angers. En fait, ils sont une trentaine, mais ils n'ont pas toujours tout dévoilé. Mais apparemment, ils seraient une trentaine à porter la flamme sur le parcours d'Angers. Voilà.
D'accord. De toute façon, il y a toujours un peu des surprises.
Ce qui paraît très logique au vu de la durée du
6 km.
Du parcours, et sachant qu'il y a un changement de flamme à peu près toutes les 6 minutes.
C'est vrai que Mais en tout cas, bah, pour avoir donc, enfin.
En tout cas, c'est la seule liste, en tout cas, qu'on a trouvé dite officielle.
Le Maine-et-Loire, notamment, le parcours est assez. Alors, je sais pas du tout comment ça marche, pour transporter la flamme, mais il y a un vrai zigzag.
Sur proposition.
Il y a un vrai zigzag que la flamme fait. C'est-à-dire qu'on commence donc au nord-est, on va au sud-est du département, ensuite on va dans le nord, ensuite on va dans le sud-ouest. Après, on remonte donc à l'ouest complètement, et puis on revient sur Angers. Donc il y a un vrai zigzag.
C'est simplement les villes en fait qu'on.
Bien sûr, oui. Non, mais après.
Le parcours est un peu étonnant.
À noter que voilà, simplement, voilà, à chaque fois dans les villes que j'ai nommées, elles feront un petit tour donc dans la ville. La flamme fera un tour dans la ville. Et c'est juste la transition entre les villes qui m'échappe un peu, mais oui, après, il y a sûrement un système qui fonctionne bien.
Et aussi, peut-être, Amandine Brossier, qui va participer au JO aussi, et qui portera la flamme, notamment au stade Roger Miculac.
Sûrement.
Représenter les couleurs de Angesco Attelé.
Exactement, on verra ça.
Ouais, parce que quand on regarde cette première liste-là, c'est vrai qu'il manque beaucoup de sports qui sont reconnus sur Angers, au vu même des parcours et de la région, enfin du Maine-et-Loire, parce que le basket avec Cholet, avec l'UFAB, pour l'instant, aucune information si quelqu'un de sport là va porter.
Mais voilà, on aura peut-être des surprises.
Mais tu vois, c'est un peu étonnant, j'ai envie de dire, de pas avoir annoncé tout le monde d'un coup, ou même de mettre en avant simplement les anonymes.
Ouais.
Et d'en mettre que certains.
Donc voilà, on reviendra là-dessus donc la semaine prochaine, plus longuement, plus en détail donc sur ce qui s'est passé, les différents porteurs de flammes.
En tout cas, courage à ceux qui ont l'habitude de prendre les transports en commun pour aller travailler ce jour-là.
C'est une information qui peut être utile évidemment à tous les Angevins s'ils ne le savent pas déjà, c'est que le centre-ville sera totalement fermé.
Sera quasiment piéton.
Ce sera totalement fermé, hein, donc voilà, faites gaffe. Par rapport à ça, tout est fermé, de la Doutre à Belbeil jusqu'au centre-ville et Foch notamment.
Et si un petit truc, je trouve ça dommage, par exemple, que notre stade, qui est quand même un peu emblématique,
ouais.
Bah, il n'y a pas un passage devant ou.
Et à la place, on termine à la Rochefoucauld.
Donc, la place de la Foire. Oui, c'est.
la place de la Foire.
C'est pour ça, je comprends pas l'arrivée, forcément. Alors, si, je comprends en termes de.
Forcément. Ouais, c'est le long de la Maine, tout ça.
Tu peux, puis même, c'est plus simple pour organiser des choses sur place. Effectivement. Mais tu vois, t'as quand même, je trouve que tous les hauts lieux du sport en juin, ils sont pas mis non plus en avance.
À part évidemment le stade Miculac.
Oui.
On va enchaîner avec les actualités internationales. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je vais revenir sur. On va d'abord parler de foot avec dans un premier temps la Ligue 1, les résultats du multiplex qui était un multiplex passionnant avec.
Surtout pour toi.
Surtout pour moi, je vous dis, j'ai passé un week-end excellent, mais excellent. Du vendredi au dimanche, c'était incroyable. Donc, ce multiplex. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, il y avait la course à l'Europe avec Lyon, Marseille et Lens qui se disputaient donc la 6e et la 7e place. Et puis Lyon qui pouvait à tout moment redescendre à la 8e place. Et finalement, ils se retrouvent à la 6e grâce à leur victoire 2-1 contre Strasbourg, grâce également au match nul entre Lens et Montpellier. Lens qui a complètement lâché le match en cours de route. Un peu plus haut, on retrouve la bataille pour la 3e place entre Lille et Brest. Lille, pareil, a un petit peu de choc en concédant le nul de partout contre Nice, et Brest dans le même temps qui a fait le boulot en s'imposant 3-0 contre Toulouse. Marseille a fait le taf en battant Le Havre 2-1, mais les Marseillais n'avaient pas leur destin entre les mains. Et puis cette course pour les barrages qui était complètement folle. Il fallait que Lorient gagne avec la défaite également de Metz pour se maintenir. Il fallait combler une différence de but de +8. Et finalement, c'était +7 et non pas +8. Et puisque Lorient l'a emporté 5-0 contre Clermont, Metz a perdu 2-0 contre Paris. Donc voilà, ça se joue à un seul but, la place en barrage. Et donc c'est Metz qui jouera contre Saint-Etienne Rodez ou le Paris FC pour les barrages. Voilà pour la Ligue 1. On va parler un petit peu, alors peut-être avant de la liste de Deschamps, on va faire un léger point sur le foot européen avec donc les quatre autres champions que l'on connaît dans les cinq grands championnats. Donc avec Manchester City qui a été donc sacré ce week-end, Leverkusen, ça date un petit peu, qui a donc détrôné le Bayern Munich, le Real Madrid en Espagne et l'Inter Milan en Italie. On va parler maintenant un peu de la liste de Deschamps. Et oui, parce qu'on a eu une belle surprise. On a eu une surprise surtout avec la présence notamment d'N'Golo Kanté. Je vais vous dresser la liste et puis on en parlera un peu autour de la table. Maignan, Samba, Areola dans les buts. En défense, Klose, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano, Konaté, Hernandez, Théo Hernandez, Ferland Mendy. Kanté, Tchouaméni, Kamavinga, Fofana, Zaïre Emery, Rabiot, Griezmann. En attaque, Coman, Barcola, Giroud, Thuram, Kolo Muani, Dembélé et Mbappé. Messieurs, est-ce que pour vous, quelle est la plus grosse surprise de cette liste? Est-ce que c'est plus un Barcola, un Kanté ou même un Kolo Muani pour les plus grands détracteurs de l'ancien attaquant de Nantes?
Moi, je pensais surtout Kanté qui était pas attendu du tout dans cette liste, mais apparemment Deschamps il aime bien faire revenir des joueurs pour l'Euro avec Benzema la dernière fois. Bah c'est un cadre du vestiaire qui revient et qui peut apporter que du bien, j'ai envie de dire.
Il va faire revendre des disques.
Des disques.
N'Golo Kanté. Bon, ah, bref.
Bah, très belle chansonnette que tu puisses là. Clément, justement, à part peut-être Kanté, est-ce qu'il y a un autre nom qui te...
Bon, c'est du Deschamps, hein. C'est un peu classique et puis ça change pas trop. On remet les mêmes et puis c'est reparti pour un tour.
Mathéo, qu'est-ce que t'en penses?
Bah moi c'est plutôt les absents en vrai que j'ai envie de souligner. Bon, bien évidemment on est obligé de parler de la Lacazette, c'est vrai que
évidemment
c'est un petit peu décevant de ne pas avoir le général en espérant qu'il soit pris aux Jeux Olympiques, ça serait vraiment sympa. Moi je regrette aussi l'absence de créateur au milieu de terrain, on en a aucun tout simplement. Donc c'est vrai que c'est plutôt un problème. Après c'est dû aussi au fait que Pogba soit suspendu
quand même.
Oui, alors c'est pas vraiment un profil de créateur pur. Maintenant, j'ai vu que Coman s'est blessé. Bon, j'aime pas souhaiter me réjouir de blessures de gens. Il y a rien de grave.
Apparemment, il y a rien de grave.
Parce qu'on aurait pu prendre Olysée dans ces cas-là, et Olysée, ouais, ça aurait peut-être changé la donne
de Crystal Palace.
Exactement, de Crystal Palace, qui peut jouer en 10, qui peut jouer ailier, qui est vraiment excellent.
Après, il peut toujours changer. Hein. C'est pas la liste définitive. Là.
Oui, c'est les présélectionnés, je crois qu'on dit.
Ouais, c'est la liste des 27, je crois qu'il a pris ça.
Il en a pris 25 et 25, il peut aller jusqu'à 26. Florian, qu'est-ce que t'en penses toi de cette liste?
Bon, déjà, je pense que d'autres surprises, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Déjà, il l'a fait avec Kanté, donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres surprises dans cette liste. Après, c'est vraiment dommage parce que du coup, je trouve que ça montre clairement qu'il a un problème avec Lacazette, alors que le mec marche sur l'eau de. Enfin, si Lyon on arrive là, je pense qu'il en est un grand artisan. Et le fait que de voir Kolo Muani à l'instar dans la liste, enfin, quand on voit les performances, c'est dommage de se priver d'un joueur en forme et qui a plutôt la tête dans le bon sens et de prendre un mec qui a la tête dans le sac. Voilà, après la surprise Kanté, apparemment il aurait regardé tous les matchs d'Arabie Saoudite. Alors, je pense qu'il a le temps, en même temps c'est son métier Deschamps, donc voilà, maintenant on va voir dans quel état il le sera, et ça se trouve il va nous faire un euro fantastique. Donc je suis pas vraiment surpris au final parce que c'est vraiment la liste d'un homme qui nous en a sorti des listes pareilles depuis maintenant 10 ans quoi.
Cédric, enfin pour terminer.
Bah le seul que j'irais à la rigueur pour moi c'est Barcola. Je pensais plus que tu vois, il l'aurait un peu préservé au vu de sa saison pour être sûr, et puis je le voyais plus aller faire les JO.
Ouais. Et bon, finalement.
Bah finalement il est sur la liste, on verra bien. Sur les définitifs, après, s'il peut apporter ce qu'il apporte au PSG sur les derniers matchs, en joueur remplaçant, mettre des petits coups de pression comme ça, d'un coup, ça peut être intéressant. Après, de toute façon, moi et Deschamps et ses compositions, hein, c'est une grande histoire d'amour. Hein,
oui.
C'est,
je pense qu'on est tous pareils.
C'était pas maintenant qu'il allait ramener de la jeunesse. Quand tu vois que sur les matchs de préparation, il met déjà pas de jeunes pour tester, pour voir comment ça pourrait tourner. Enfin, je sais pas combien il reste encore d'un contrat.
Deux ans, je crois.
Ouais, voilà. Ouais,
il est censé faire la Coupe du Monde 2026.
Mais, enfin, t'as un peu encore l'équipe pendant, un an ou deux, quoi. Avec quelques-uns qui vont partir forcément, mais
quand la on jeunesse, voit qu'il y a... la jeunesse, c'est Zaïre Emery en fait. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui a fait 4 mois super et qui derrière en fait arrive pas à passer le cap. Mais je pense que c'est aussi sa première saison à haut niveau avec un enchaînement de matchs enfin énorme. Et clairement, en fait, il y a des joueurs qui auraient dû être pris pour les Jeux et plutôt et qu'il a pris pour l'Euro. Et donc, on va se retrouver avec une liste aux Jeux Olympiques, je trouve, moins forte que prévu, parce que d'un point de vue organisme, enfin, je trouve que c'est mon cheval de bataille personnel de voir des enchaînements de compétitions et de matchs à longueur de semaines. Je trouve ça un peu fou, en tout cas. Et donc, de se retrouver avec des joueurs qui vont faire les deux, potentiellement, bah, c'est avec une si jeune carrière, c'est les envoyer vers des blessures qui peuvent être graves par la suite. Après, c'est mon point de vue.
Parce qu'il faut savoir que sur le choix des appelés en équipe de France, c'est Deschamps qui a la priorité.
Ouais, c'est ça, qui avait été mis en place.
Déjà, rien que ça, je trouve ça un peu inadmissible. Enfin,
ça concerne quasiment que le foot, en fait.
Ouais. Mais c'est surtout qu'il pourrait dire... Tu vois, t'as l'impression qu'il n'y a pas de discussion au sein de la Fédé, c'est... Toi, t'es entraîneur de l'équipe B, et puis moi, je suis l'entraîneur de l'équipe élite, et donc, je te donne les miettes, tu te débrouilles avec ça, quoi.
C'est un peu ça. Mathéo, toi, t'étais arrivé, je me souviens de tes premières émissions pendant la trêve internationale, et avec les gars, t'avais dit que l'équipe de France t'intéressait plus vraiment. Ouais, est-ce que t'as un cas. Petit,
c'est toujours le cas. Après, sur les compétitions officielles, c'est différent, mais ça, bien c'est sûr. Plus, moi, l'âme d'un Français qui parle.
Évidemment.
Maintenant, je trouve ça dommage que la France soit un peu, la seule nation connu entre guillemets qui ne renouvelle pas les postes où ça ne marche pas. Il y a plein de viviers de jeunes joueurs excellents dans tous les championnats et notamment en France. Et Deschamps, je pense au poste de latéral droit typiquement.
Bien sûr.
C'est un problème depuis longtemps et là on a des solutions peut-être avec Malo Gusto, pourquoi pas.
Évidemment.
On va pas le chercher. Le milieu de terrain, j'ai toujours du mal avec ce milieu de terrain là. Et puis on continue de sélectionner les mêmes joueurs qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent en club mais qui ne fonctionnent pas en sélection. Je pense à Thuram, je pense à bien sûr Colomouani, même s'il fonctionne plus trop en club. Et on n'appelle pas des Matistel par exemple. Alors même s'il joue beaucoup moins au Bayern Munich.
Pour les JO, ça peut être mieux d'avoir un Matistel.
Pour le coup, c'est vrai. Mais je trouve ça dommage qu'on se renouvelle pas en équipe de France et que du coup les Français se lassent de cette équipe. Maintenant, peut-être que l'Euro va me faire mentir, mais c'est vrai que.
En fait, c'est un peu ça chaque année.
On dit ça à chaque fois, mais au final, on a quand même deux finales de Coupe du Monde. Deux finales de Coupe du Monde les deux dernières années, puis une finale d'Euro. Après, il y a eu un faux pas le dernier Euro, mais bon, ça fonctionne quand même. Hein.
Mais oui, c'est sûr. Mais ça se trouve, à un moment donné, ça va.
Manière aussi.
Oui. Bah, ça, évidemment. Et puis surtout, peut-être qu'à un moment donné, ça va plus trop marcher.
Non, puis il y a quand même des incertitudes sur certains joueurs en termes de blessures.
Oui, c'est sûr.
Qui ont été appelés, qui sortent tout juste de blessures.
Bah, déjà, Faustin ne pourra pas jouer l'Euro, donc je suis très
qu'est-ce
déçu
qu'on va faire
de ça.
Ah, il a dit qu'il irait tester la pelouse pour
un
voir
peu comme
en cas de chute si ça glisse bien, si ça adhère bien.
Désolé, Faustin, en te chambre. Justement, en parlant de Faustin, on va fermer cette page foot. En parlant de basket, tu vas nous faire... Qu'est-ce qui se passe dans ces playoffs NBA? Raconte-nous.
Bah, ça y est, on connaît toutes les finales de conférence au terme de séries complètement folles, notamment avec deux Game 7. Alex, à l'Est.
Oui, c'est vrai, oui, il y avait quelque chose.
Ce sera les Celtics contre les Pacers, une série dans laquelle les Celtics sont ultra favoris. Cependant, ils n'ont pas vraiment pu se confronter à une vraie équipe. D'abord en affrontant le Heat, mais sans Jimmy Butler. Ils ont quand même perdu un match. Puis contre Cleveland, mais marqué par l'absence dans les derniers matchs de Donovan Mitchell. Je ne sais pas si cette équipe est réellement prête. Tandis que les Pacers sont eux clairement les outsiders de ces playoffs car ils avaient fini sixième de la conférence Est. Ils sont plus que prêts maintenant en sortant d'une série qui allait en sept matchs face aux Knicks. Ils montent en puissance dans ces playoffs et ça ne m'étonnerait pas de les voir réussir à accrocher cette équipe de Boston. À l'Ouest, la finale de conférence oppose Dallas à Minnesota et pour le coup, les deux équipes sont bel et bien prêtes avec d'abord les Mavs qui ont réussi à éliminer en 6 matchs le premier de la conférence Ouest. On a retrouvé un vrai Luka Doncic qui met des points et un impact dans le jeu. Et honnêtement, je pensais que OKC allait accéder à la finale NBA et je pensais pas que Dallas allait être capable de battre cette équipe. Mais face à eux, c'est encore un plus gros morceau qu'ils vont affronter, car Minnesota a l'air surpuissant dans ses playoffs, en sortant notamment le champion en titre Denver, en remportant trois de leurs quatre matchs à l'extérieur, et étant mené de 20 points lors du Game 7, qu'ils ont quand même réussi à remporter, notamment avec un super fait de Rudy Gobert qui a fait le tour de la planète. Et c'est juste complètement fou, cette équipe nous a surpris toute la saison, et la finale leur tend désormais les bras. Avec les équipes qualifiées dans ces finales de conférence, il est désormais sûr que soit Anthony Edwards, soit Luka Doncic, soit Tyrese Haliburton, soit Jason Tatum sera champion NBA à la fin de la saison, et ça marque clairement le changement d'ère de la NBA.
Une nouvelle époque en Exactement. NBA. Merci Faustin pour ce point NBA. C'est vrai que la saison va bientôt arriver à son terme, et évidemment on suivra tout ce qui va arriver, notamment avec les finals. On va parler d'autres sports maintenant avec le tennis. Zverev notamment a remporté le Masters 1000 de Rome dimanche dernier en finale contre le Chilien Jarry. C'est une époque évidemment importante puisque c'est bientôt le début de Roland Garros, en sachant que les qualifications ont déjà débuté aujourd'hui. Parmi les premiers éliminés, on retrouve Benoît Paire, Lucas Pouille ou encore l'Angevin Clément Tabur. Et puis pour les qualifiés, on retrouve Enzo Cuoco, Hugo Barrère ou encore Léonie Jean-Jean. Chez les femmes, et puis Nadal qui a notamment fait son retour porte d'Auteuil avec des premiers entraînements. En cyclisme, Pogacar qui écrase totalement la concurrence sur le Giro. Il possède plus de 6 minutes 41 sur le deuxième Garin Thomas au général.
Et plus aujourd'hui.
Oui, plus justement. J'ai pas mis à jour depuis donc cette nouvelle victoire d'étape qui est arrivée ce mardi. C'est déjà sa cinquième obtenue donc dans des conditions climatiques assez difficiles. Et puis du côté des Français, Romain Bardet qui figure toujours dans le top 10, Julien Lafilippe qui dynamise un peu ce Giro et qui a remporté sa première étape depuis assez longtemps, c'était cette semaine. Et puis il est devenu surtout le 109e coureur de l'histoire à signer une victoire sur les trois grands tours, donc Tour de France, d'Espagne et d'Italie. Et puis il y a des rumeurs qui spécule autour de son retour peut-être sur le Tour de France pour donc s'afficher avec donc son équipe. Et donc c'est la troisième victoire également française sur ce Giro 2024. Au niveau des sports de combat, on va commencer avec le MMA. Cédric Doumbé a fait son retour à Bercy pour un combat du Bellator contre l'Américain Jalel Willis. Le Français s'est imposé par TKO après dès le premier round et fait le plein de confiance donc avant de défier soit Anthony Pettis ou peut-être même Baki pour une revanche.
Il a surtout fait le ménage.
Il a fait le ménage, oui, c'est vrai.
Il a fait le ménage quand il est rentré. Hein.
Pas d'écharde pour le Français. Donc voilà, peut-être une revanche avec Baki si ce dernier, toutefois, accepte le combat. En boxe, Tyson Fury a été défait au point par l'Ukrainien Alexander Usyk, sacré donc par conséquent champion du monde unifié des lourds. Et il y aura une revanche en octobre. Et puis on termine par le judo. Les Français qui déçoivent plutôt avec ce début des championnats du monde à Abu Dhabi. Seulement 2 médailles de bronze avec celle de Amandine Bouchard et celle d'Agbenienou qui a dû passer par les repêchages
attention au lapsus, hein, ça peut être dangereux dans la catégorie féminin.
J'enchaîne dans cette fin d'émission. Donc voilà, ça fait 2 médailles de bronze sur ces championnats du monde de judo. Je vois que tout le monde est un peu dissipé là sur la fin. Il va être temps de libérer toute l'équipe puisque c'est la fin de l'émission, il est déjà 20h58. Vous rappelez également, vous annoncez que Génération Sport va organiser sa troisième édition des Générations d'Or. Et oui, on va vous proposer, chers auditeurs, dans quelques jours, de pouvoir proposer justement vos nommés dans les différentes catégories. On devait normalement en discuter ici un peu autour de ça, mais on en parlera donc dans les semaines à venir. Et donc on vous propose de soumettre des noms pour les différentes catégories. Et puis ce sera au niveau du mois de juin. On vous réserve un très bel été donc dans Génération Sport. On va vous laisser avec le générique et la suite des programmes sur Radio G. Et puis on vous dit à mardi prochain pour une nouvelle émission de Génération Sport.